avec Leïla Kadoumoukhi, Fanny Ruet, Morgane Cadignan, Daniel Morin, Morgane Bachereau sera là tout à l'heure. Nos invités sont Sandrine Kiberlin et Bruno Podalydès. Avec un véritable conte dont nous allons parler, les deux,
c'est génial.
Les deux Alfred.
Il est super.
Ah ouais. Ça a réveillé votre part d'enfant, c'est ça? Vous aviez des doudous, parce que les deux Alfred sont des doudous, hein,
oui,
on
oui.
peut le dire sans divulgâcher quoi que ce soit du film.
Oui.
Morgane, t'as un doudou?
Oui, il s'appelle Bob. C'est une petite poupée noire avec des cheveux jaunes et une salopette rasta.
Mais tu peux m'appeler Daniel.
Mais non. Si. Mais tu l'as toujours?
Il est chez ma mère.
Ok, donc tu
mais je dors pas avec.
Tu ne dors plus
non,
avec ton doudou.
Non, je ne dors pas avec.
Moi, j'ai Morgane. Hein.
Morgane et ton doudou.
Ouais. Ton doudou
vivant. C'est trop mignon.
Là, je
trop
sais.
Mignon. Et toi, Leïla?
Moi, j'en ai un qui est chez mes parents et c'était vraiment le sosie du nounours qu'il y avait dans la pub Cajoline.
Oula, mais moi-même.
Et quand je le voyais à la télé, en fait, c'était la panique parce que je me disais mais où est, enfin, il est à la télé quoi, faut qu'on me le rende.
Et c'est là où tu t'es dit, moi aussi, je peux passer à la télé.
Si
mon doudou, passe à la télé.
Mon doudou l'a fait, je peux le faire.
Je vais rejoindre mon doudou dans la télé.
Du coup, il s'est barré.
Et bah oui, du coup,
t'avais
il a disparu.
T'avais un doudou, toi?
Ouais, c'était mon oncle.
Quelle horreur.
Oh, c'est moche.
Mais quelle horreur. Non, moi, alors, je sais pas vous, mais moi, j'avais, comment dire, on appelle ça, amputé mon doudou.
Bah oui.
Ça,
tout va bien, Nagui.
J'avais viré un œil,
Bien sûr. Faut lui faire du mal pour
le
coup.
C'est ça?
C'était le début, Nagui. C'est le début de la grande carrière de Nagui.
Nous avons donc ces deux Alfred avec cette histoire de doudou avec Sandrine Kiberlin, Bruno Podalydès qui sont nos invités. Il y a Denis Podalydès évidemment à l'affiche de ce film. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire comme blague?
Tous les Alfred.
Non,
les doudous.
Alors.
Sweet, non.
Comment tu vas?
Toutes les chansons, il y a doudou.
Les duos?
Les deux.
Pourquoi
il y a deux.
Bah, il y a deux Alfred.
Deux Alfred.
Ah oui.
Toutes les chansons, il y a Teddy Bear.
Non.
J'en ai une sous le coude.
Non, j'ai fait ça.
Fan.
Leïla, Angèle.
N'existe pas sans son contraire.
Jolie, Leïla. Donc, Angèle avec qui?
Avec Roméo.
Ah, les frères et sœurs.
Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier.
Ouais, mais Angèle qui? Parce que juste le prénom.
Van der Laken.
Van Laken.
Van Laken. Si j'ai rajouté un petit der.
Oui, bah, il faut toujours.
Der, c'est classe.
Ah, mais il y a Fanny là, attention.
N'existe pas sans son contraire. Une jeunesse pleine de sentiments.
Je fais juste un petit clin d'œil à Marca qui m'a envoyé un texto, s'il nous écoute d'ailleurs, un texto extrêmement gentil ce matin. Monsieur Marca, je vous embrasse, le papa de ces deux talentueux interprètes. Alors, qui chante ça?
Leïla?
Oui.
Gallagher Oasis. Ouais, mais je suis fatiguée ce matin, pardon. Déjà que je suis pas en forme généralement.
Gallagher Oasis.
Et là, je les connais, je suis pas obligé de donner le nom de famille. Monsieur et Madame Oasis sont un fils.
Oasis.
Gallagher Oasis.
Don't look back in anger. Qui chante ça?
Big Flo et Oli.
Ouais.
Allez, mais tu peux laisser des points un peu.
Bah, je suis en matrice, frère et sœur.
Oui, prends. Ah, elle aurait dû y aller.
Ah, frère et sœur, ça y est, je. Oh, excusez-moi, ça va.
T'as pas de nom de famille?
C'est dommage, mais non. C'était la dernière fois. Elle aurait dû y aller.
Elle aurait dû le faire. Crois-moi, on a tous dit. Assez dommage, assez dommage. C'était la dernière fois. Diego est affalé au fond du canapé. Alors, c'est pas spécialement frère et sœur, c'est pas spécialement d'abord frère et sœur, c'est plutôt famille, si je peux me permettre, dans cette.
D'accord.
Dans ce blind test, parce que il y en a du Podalydès dans le film Les deux Alfred, et c'est pour ça que je suis parti là-dessus.
Daniel.
Oui.
You really got me now.
Mais qui?
Girl, you really got me now.
Mais qui? Chante.
J'ai un trou.
C'est pas le nom,
non, c'est pas eux.
Les cousins, là.
Non, c'est pas des cousins, c'est des frangins. Les Kings. Davis. Alors tout le monde a été présenté en termes d'identité familiale et de fiche de police. Ce sont les frères Ordonez.
Ah, voilà,
comme ça au moins c'est fait. Qui chante ça?
Daniel?
Dis-moi.
Bogdanov?
Non. J'ai senti son odeur.
Leila,
oui.
Soprano.
Non,
Maître Gims.
Oui. Ah oui. Chaque fois que c'est toi. Hein.
Ils sont de la même famille.
Bah, il est une voix hyper reconnaissable. C'est son frère.
Ouais, mais je pensais qu'il a un frère.
C'est Dadju son frère,
ouais,
non
son frère.
Je sais pas. Non, Nagui.
Pardon. Si, son frère.
Dadju,
son demi-frère, demi-frère.
Carrément frère.
Oui, ah, mais demi-frère.
Oh, mais non, mais moi, alors, franchement, ça, le demi, moitié.
Non, car... j'en sais rien.
Mais non, c'est son frère.
Mais j'en sais rien, Nagui.
Ils
font partie de la famille Juna. Tu dis quoi?
On est sur de l'éclectisme aujourd'hui. Il n'y a pas encore eu.
Et du contemporain.
Il n'y a pas encore eu un titre pour Daniel Morin. Ouais. Si, il a eu les Kings.
Les Kings.
Il a eu les Kings. Ce sont des frères, ce sont des sœurs, ce sont des frères et sœurs. C'est la famille.
Sûrement chez Did. Hein.
Leila,
elle doit arriver.
C'est Dada. Non, pas du tout.
Mais regarde, Auguste et Julie Aston.
Non.
Non.
Daniel. C'est vrai que j'aurais pu Auguste.
Stantet.
Daniel.
Creedence.
Creedence, Clearwater Revival, les frères, comment?
C'est vrai, les frères.
Fogarty.
Exactement. Bravo. En même temps, ça correspondait au blind test que j'aurais pu faire, Fanny, de, que tu as évoqué tout à l'heure, un blind test sur les...
Les doudous.
Les doudous. J'aurais pu faire un blind test doudou. Attention, il s'agit maintenant du super banco. Pour l'instant, Leila est en tête, Daniel ensuite, et puis Morgane et Fanny sont là de temps en temps. 5 points, vous pouvez gagner là-dessus.
Leila,
oui.
Le brio. Les Breeders.
Oui.
C'est un peu la même époque pour moi.
T'as mal lu sur la fiche, c'est ça?
J'ai décidé ce matin.
Kim et Kelly deal the Breeders Cannonball. Et ceci signe une victoire de Leila Kadour-Boudani.
Oui.
Merci d'accueillir Sandrine Kiberlin et Bruno Prenolides.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Bienvenue Sandrine, bienvenue Bruno, merci de venir à ce micro. Comment allez-vous d'abord ?
Bien.
Bien,
merci aussi de nous accueillir.
Super. Bruno, vous réalisez un nouveau film. Alors j'ai fait tout ce blind test autour de la notion familiale parce que si je n'ai pas reconnu tout le monde, mais j'ai bien vu au générique qu'il y avait au moins 5 membres de la famille Podalydès présents dans le film, en comptant les adultes et les enfants.
Oui, exactement. Ouais, bah, le petit garçon, c'est... Le petit, je me rapproche du micro.
Ben oui, s'il vous plaît.
Le petit garçon.
Parce que sans micro, la radio, c'est peu de choses. Hein.
C'est vrai. Tout est relatif finalement.
Donc il y a le petit garçon.
Oui.
Il y a l'adolescent qui est spécialiste en drone.
Oui. Nino et puis Jean qui joue le coursier soufflé.
Ah oui. Et puis Sandrine Podalydès.
Et Sandrine.
Ah oui. Ma nièce.
Je fais partie de la famille.
Forcément.
Je fais partie de la famille. Et Denis et Bruno qui jouent deux. Alors c'est une sorte de conte de fées. Évidemment, c'est un Bruno Podalydès. C'est-à-dire que vous arrivez à faire un film maintenant qui est votre patte, votre signature et qui est votre genre de cinéma. Comment vous le définiriez d'ailleurs ce genre? De films poétiques et néanmoins drôles, attachants et qui a une vision de la société et qui a des valeurs.
Ah ben je vous laisse le dire. Hein,
moi, ça y est, je l'ai dit.
Merci. Non, merci. Je serais incapable, franchement, de caractériser ce que je fais, vraiment.
Et votre moteur ou en tout cas vos références cinématographiques, j'ai vu. Alors je prends le risque. J'ai vu du Tati.
N'importe quoi. Alors là, vraiment.
Moi, j'ai vu du Spielberg, hein, vraiment, vraiment.
J'ai vu du poétique, un peu fou et en même temps pas si fou que ça, en fait. C'est ça.
Non, et puis avec des gags, je dis pas ça d'une manière péjorative parce que je suis client de ça, mais avec des vannes un peu comme.
Des jeux de mots.
Comme un peu la coccinelle chez Marcel Gottlieb, la rubrique à Wack, c'est-à-dire en arrière-plan, alors qu'il se passe il y a deux personnes qui parlent, en arrière-plan, il y a juste un mec qui se mange un poteau pour faire rire, ou un truc qui tombe, ou un truc qui passe à côté.
Oui.
Ça, c'est du Tati.
Oui, parce que je pense au son chez Tati. À un moment, je fais partir une bouteille de champagne et il y a un drone qui tombe derrière moi.
C'est tellement drôle.
Et au tournage, personne n'y croyait, je chantais bien.
C'est trop.
Et le mettre la chute, tout de suite raconte le truc.
Il y a beaucoup de chutes de drones quand même. Oui. Il provoque beaucoup d'accidents.
Mais oui, mais j'avais une espèce d'instinct pour ce film à détruire les trucs. Je cherchais à chaque fois comment détruire le truc. L'espèce d'écran qui se balade, là, qu'on appelait WeBoat. Je me disais, mais comment je vais le casser, ce truc? Je vais le noyer, je vais électrocuter, je vais
brûler. Mais il y a un cynisme qui est formidable.
Et alors, votre personnage, formidable. Sandrine Kiberlain, au début, on ne peut pas vraiment l'aimer.
J'ai adoré jouer ça.
C'est la méchante tirée à quatre épingles. Mais en fait,
on sent très vite que c'est une carapace pour essayer de garder son job. Mais
elle est au bout du rouleau.
Elle est au bout du rouleau, nerveusement. Donc, c'est très drôle à jouer. Elle a des crises de... Et d'ailleurs, je les inventais. Elle venait. J'étais tellement dans ce personnage à un moment qu'elle venait nous surprendre ces crises.
C'était des répliques comme pour un volcan ou un tremblement de terre.
Ouais. Et de ce coup, plaf, ça partait comme un.
Il y a des gens qui ont l'air de salauds. C'est vraiment des salauds. Hein. Je vous assure. Je pense à personne en particulier.
Mais... C'est un personnage.
Vous avez
super.
Travaillé votre façon de bailler, par exemple.
Non, ça, il me l'a volé. Il me l'a volé. C'est les réalisateurs.
C'est longtemps qu'elle me faisait rire avec ça. Ouais.
Le début de bâillement.
Les réalisateurs sont des voleurs, c'est ça.
Les bons réalisateurs sont des bons voleurs.
on va resituer quand même le contexte parce qu'on a parlé un peu de la forme de la couleur, mais on est dans une situation dramatique pour le personnage de Denis Podalydès, puisque il est sans emploi, il est au chômage,
il vient de se faire plaquer, voilà. Ponctuellement.
Non. C'est une pause.
Voilà, c'est ponctuel cette séparation.
Et il a un rendez-vous qui est tristement à pleurer de rire avec son banquier, où il constate qu'il est au bout du rouleau lui aussi, mais pour X raisons. Il a l'espoir d'avoir un nouveau job dans une société. Et puis, hasard de la vie et poésie, et on se demande même pas le pourquoi du comment, mais en déposant ses enfants à la crèche, ne pouvant pas rester d'ailleurs à la crèche pour la journée de formation, il vous croise, Bruno, vous qui venez de déposer des enfants qui ne sont pas les vôtres, en plus. Et puis, il y a un moment où on se pose même plus de questions en disant est-ce que c'est crédible ou pas crédible, on dit bon, ben voilà.
Parce que je les ai appelés Aglaé et Sidonie.
C'est la société de service, en fait.
Aglaé et Sidonie, étant une vanne de vieux, je me sens concerné. D'accord. Qui était c'est même pas un dessin animé, d'ailleurs, c'est de l'animation avec des animaux. Oui. C'est ça.
Ils n'existaient pas en vrai.
Non, non, non. Mais si, les animaux existaient en vrai, mais... À tous les enfants
qui sont autorisés.
Évidemment. Nous allons dire au revoir en passant. À tous les amis, nous rendons au pays d'Aglaé et Sidonie. Et donc, je suis désolé pour ce moment de solitude.
Ça avait l'air bien, les années 30.
Je te remercie, Bruno, d'avoir aidé sur ce coup-là. Je te remercie, Bruno. Je n'oublierai jamais ce moment de solitude. Merci. Et puis, on est dans Denis Podalydès, son personnage, trouve un job dans une société. Et là, on est dans le très moderne, le branché, The Box.
On est dans la start-up par excellence. Quoi.
Oui, avec des mots anglais name-droppés. C'est ça, oui.
C'est ça.
Et puis, pas d'enfant.
C'est un univers comme si on était à l'étranger, quoi. Tout d'un coup, le mec se retrouve...
Avec une langue étrangère.
Complètement perdu, sans repère, sans comprendre les blagues, sans comprendre les références, sans comprendre même le métier qu'il va devoir exercer. Où il doit fixer sa rémunération tout seul, mais pourquoi drôle, comment, en fait, c'est tout d'un coup, c'est l'univers. Et puis surtout, les gamins sont interdits.
Ça, et puis l'absurdité, c'est vous êtes bien disponible 24-24. Le truc qui est complètement fou.
T'imagines un emploi, on est d'accord. Et vous êtes dans cette société, Sandrine Kiberlain, celle qui est un peu la sous-chef, non, parce que le, voilà. Oui, alors ça s'appelle comment?
C'est OP.
TPO One. Et on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ouais. Chief Officer Powerful.
Mais qui se retrouve dans une voiture sans aucun conducteur.
Très haut placée. Elle est très haut placée. Elle se retrouve dans une voiture sans conducteur.
Tout est connecté.
Voilà, qui réagit à son identité. À un moment, bon, il va y avoir des petites.
Et c'est ça qui est fort, c'est de se retrouver avec beaucoup de poésie dans un monde qui en perd totalement, où tout est connecté, tout est informatisé, tout est robotisé. On est dans la génération binaire du 1-0.
En le montrant à l'extrême, on repense à la poésie de la réalité de la vie.
Et en même temps, la technologie n'est pas dupe, parce que quand cette voiture ne vous reconnaît plus, quand elle refuse de vous ouvrir la porte, elle voit en vous une autre personne qui est en train de devenir quelqu'un d'autre, en fait. Où finalement cette technologie, elle est pas si absurde que ça.
La reconnaissance faciale va plus loin.
Oui, c'est ça. Il y a une belle scène.
Ouais. Ah ouais, c'est ma scène préférée, moi.
C'est vrai.
Ah bon, vous avez pas aimé le reste du film? Ça s'appelle Les Deux Alfred, c'est au cinéma et c'est signé Bruno Podalydès qui est notre invité, avec Sandrine Kiberlin, sublime, comme toujours d'ailleurs, vous savez à quel point on admire votre travail, Sandrine,
merci,
vous portez avec Denis Podalydès et Bruno, où il y a vraiment une fragilité et une complicité, une connivence entre vous deux, au-delà du fait d'être frangin, on imagine, ce qui est pas le cas de tous les frangins, on imagine que vous êtes deux purs potes, quoi. C'était il y a quelque chose qui est magique entre vous et Denis.
Oui. Je le dis clairement, c'est mon meilleur ami.
C'est ça. Oui.
Ouais.
Ah bah c'est pas ce qu'il dit, lui.
Les Deux Alfred, c'est au cinéma. Et alors, nous, on est ravis de vous accueillir. Ce n'est pas le cas de Morgane Cavignan. Morgane ne vous aime pas, Sandrine. Morgane ne vous aime pas, Bruno.
Mais pourquoi ?
Non, Sandrine Kiberlin, je vous aime pas. Alors, comme ça, c'est la première fois que vous venez cette année et c'est pour me jeter votre carrière à la tronche. Eh bah, tiens donc, t'allais passer un bel été, Cadignan ? Eh bah, regarde le CV de Sandrine Kiberlin. On va voir si t'as toujours envie de prendre 2 mois pour te reposer un peu de tes chroniques. Non, mais Sandrine, vous entrez au Conservatoire National et boum, 6 ans après, César. L'année suivante, Molière, pour pas perdre le rythme, normal. 8 ans après, petit album vendu à 100 000 exemplaires parce qu'on se relâche pas et hop, re-César en 2014. C'est bon pour le cardio. Puis c'est pénible en fait. On peut pas parler de vous dans un dîner sans que quelqu'un lâche un Sandrine Kiberlin, mais je l'adore cette femme. Mais tu la connais pas, putain. Non, mais si ça se trouve, Sandrine Kiberlin, elle mange des bébés pandas. Qu'est-ce qu'on en sait? Franchement, non, mais on n'en sait rien. Quand Nagui va faire votre BO dans 15 minutes, si ça se trouve, quand vous nous direz pourquoi vous écoutiez Dire Straits en 84, le souvenir, ça sera oh là là, mon premier voyage en Chine. Je me souviens la visite aux zoo, ça m'avait ouvert l'appétit. Et Leïla, bêtement, elle croira qu'on parle de l'appétit pour le cinéma d'Albert Dupontel, mais non. Non, elle s'est enfilée 3 bébés pandas pour le goûter, si ça se trouve. Bref, une fois que t'as dit tout ça au dîner en réponse au « je l'adore cette femme », ça casse l'ambiance, hein, j'avoue. Les gens font la gueule, ils n'ont plus d'appétit. Et voilà, un koala rôti pour rien. Bref, Bruno, faites profil bas parce que c'est pas mieux. 93 César du premier court-métrage. Mais qui devient connu après ça? Normalement, le César du meilleur court-métrage, c'est comme gagner, tu sais, le concours intervillage du plus beau jardin fleuri. C'est prestigieux, mais bon, après, la vie, elle continue, quoi. Bruno, on a un point commun, vous êtes né à Versailles, et c'est un point commun parce que pas moi, mais j'y ai vécu un peu à Versailles, rive droite, et j'ai bien aimé l'ambiance. C'est très calme, c'est propre Versailles, tu mets un pantalon un peu effilé, t'as l'impression d'être Puff Daddy. Après, les gens croient à tort que c'est que Cato coincé, alors que franchement, Versailles, il y a une vraie scène rock underground qui se développe depuis quelques années. Non, je déconne, c'est chiant. Non, il n'y a que dans vos films hein, qu'il se passe des trucs à Versailles. C'était bien cette trilogie versaillaise. Versailles rive gauche, Dieu seul me voit, banc public. Ouais. En ce moment, la ville me déçoit beaucoup quand même. Enfin, les habitants plutôt. C'est rare qu'une ville me déçoive en tant que telle. J'ai jamais dit un truc du style, oh là là, Nancy, mais elle est pénible en ce moment là, depuis qu'elle est plus jumelée avec Cincinnati, qu'est-ce qu'elle est chiante. Voilà, la blague sur le jumelage des villes, l'humour français l'a pas vu venir.
Ça c'est vrai.
Donc c'est pas la ville de Versailles qui m'a fatiguée, ce sont plutôt ses habitants. Je ne cesse de le dire et de le répéter, les amis, le problème dans la vie, c'est souvent les autres gens. Dernièrement, il y a des riverains qui ont été indignés par la nouvelle campagne d'affichage contre l'homophobie. Mais les gars, sans déconner, ils font des festivals Louis XIV à toutes les sauces pour célébrer la grandeur historique de la ville. Mais vous croyez qu'ils faisaient quoi, Philippe d'Orléans, Duc d'Anjou et le marquis de Châtillon? Franchement, ils allaient pas jusqu'au château de Saint-Cloud le week-end pour faire du jeu de paume, hein. Enfin, si, sûrement qu'ils faisaient du jeu de paume, mais l'un sur l'autre. Pour ceux que ma subtilité dépasserait, ils se grimpaient dessus allègrement. Voilà. Les potes du duc d'Orléans, on les appelait pas les mignons parce qu'ils jouaient dans Moi, moche et méchant. Donc, respirez un bon coup. Ça va très bien se passer. Au pire, regardez un film de Bruno Podalydès, ça détend. Ou tous les films avec Sandrine Kiberlin. Je sais pas vous, mais moi, je vais l'adore, cette femme.
Merci. Et alors, le point de départ, c'est en effet cet homme qui a sa vie totalement en décrépitude. Sa femme le met une pause ou le quitte, peu importe. Il se retrouve avec 2 enfants plutôt en bas âge, j'ai envie de dire. En tout cas, déposé à la crèche. Denis Podalydès n'a plus d'emploi, n'a plus de vision, n'a plus d'avenir, son personnage. Et se retrouve engagé dans une start-up où on dit pas d'enfant. No child. On dit même pas d'enfant d'ailleurs parce que c'est l'utilisation des mots anglais à tout va est extrêmement drôle. Et c'est pas d'enfant. Et c'est vraiment le cœur de ce film, au-delà de dénoncer l'automatisation, les anglicismes peut-être, les acronymes et le rapport dans la société du travail. Il y a ce côté, je cache le fait d'être papa pour pouvoir avoir mon boulot et pour pouvoir travailler. C'est ça le point de départ en fait.
Oui, enfin, la frontière entre le privé et puis le monde du travail qui a été sacrément ballotté aussi ces temps-ci, où je sais que des gens ont télétravail avec les enfants derrière. Enfin, il y a eu, c'était encore plus compliqué là récemment.
Mais le film, l'idée du film était née avant.
Oui, bien avant. Confinement. Oui, oui, bien avant. Peut-être que maintenant, derrière la modernité, serait de faire croire qu'on en a un enfant.
Mytho. Ouais. Ah bah c'est le cas de Daniel d'ailleurs.
Oui, c'est vrai, j'en ai loué.
Tu voulais dire. C'est vrai,
j'en ai... Non, ce qui est génial dans le film, je trouve, c'est toute la toile de fond qui est l'absurdité de cet univers 3 ou même 4.0 et qui ne veut rien dire. C'est une vacuité totale.
Oui.
Et ça, c'est appuyé tout du long, mais de façon légère, puisque c'est en toile de fond, c'est en filigrane. C'est ça que je trouve génial avec le film.
Oui, oui. Ouais, mais les mots franglais souvent cachent des concepts très cons.
Non, mais c'est un peu. Moi, je reviens, pardon, à Tati. C'est-à-dire que ces drones qui tombent de temps en temps. Donc je repense à la porte de garage automatisée, évidemment. C'est-à-dire que c'est la modernité qui vient rendre aussi nos vies absurdes.
Oui, et Tati, il arrivait à... Ce qui était drôle, c'est qu'il montrait un truc drôle, mais surtout que c'était devenu banal. Mmh. Et là, j'ai fait pareil, j'ai demandé aux figurants dans la rue de jamais regarder le drone, le truc tombe et les gens l'enjambent.
Tout est normal.
Et voilà, c'est ça, la voiture autonome, elle a une tête de fourgon... une voiture de base, quoi. C'est pas la voiture hyper designée chez...
Ouais. Et ce qui est triste, c'est que c'est crédible. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que maintenant, mais on voit le film, on est au début, d'accord, on se dit c'est quoi cette histoire de drone, mais ça prend 5 minutes.
Ce qui est bien, c'est que tout est exagéré, mais il y a à chaque fois un point de départ, on en a entendu parler. On sait que les drones existent, on sait que les voitures sans chauffeur existent, donc à chaque fois on peut s'y
rattacher. Que les livraisons d'Amazon se font par drone aussi, donc tout ça, on se dit qu'on est...
Enfin, à la frontière.
Faut prendre une logique qui nous est familière. Moi, c'était les trottinettes qui s'échouent partout dans Paris et qu'on recharge le soir et que les mecs se battent pour ramasser plus de trottinettes. Donc, j'ai appliqué ça au drone, mais finalement, cette logique-là, l'ubérisation, tout ça, on l'a déjà vachement intégré. Hein.
Et c'est votre personnage, Arcimboldo, c'est complètement ça, mais il semble le vivre avec beaucoup de détente. Comme si, tout d'un coup, il travaillait simplement pour gagner suffisamment. Il y a un truc hyper beau dans ce personnage. On pourrait se dire, il est malmené, il est pris dans cette société complètement ubérisée. Et pas du tout. C'est la force tranquille, c'est lui qui pense à l'amour, c'est lui qui pense... Non, mais c'est vrai, il a quelque chose de très serein.
Oui, il a peut-être accepté un truc que racontent d'ailleurs les tableaux d'Arcimboldo, où on voit avec... de carottes, une courgette et apparaître un visage.
C'est lui, pour ça qu'il s'appelle comme ça.
Oui.
À cause du nez.
Le nez aubergine.
En multipliant les petits boulots, il se retrouve une identité complètement éclatée, mais il compose avec ça. Ouais.
Et il compose aussi avec la période, puisqu'il est un peu livreur 4.0.
Alors je dirais pas livreur, il est dépanneur. C'est-à-dire qu'à la fois.
C'est beau ce que ça raconte, ça veut dire qu'on aime. On aime rendre service aux autres. Lui, il est celui qui rend service, qui prend du plaisir à donner, qui prend du plaisir à recevoir, qui est plutôt le...
Et de la même manière qu'il a trouvé du boulot payé à la recharge entre guillemets de drones, il dépanne la vie des gens qu'il croise, il rend service, il garde les enfants, il les dépose à la crèche.
C'est celui qu'il rencontre aussi. Moi, je suis sûre qu'il a dans l'inconscient, j'ai toujours dit ça à Bruno, je sais pas pourquoi ça me faisait rêver, parce que j'avais l'impression que c'était celui qui rêvait de rencontrer la bonne personne. Ouais.
Et alors, vous parliez tout à l'heure de voleur en termes de réalisateur. Est-ce que l'improvisation, Sandrine, dans ce film, était aussi... Vous regardez pour savoir ce que vous pouvez répondre ?
Non, parce que je le regarde parce
qu'est-ce que... Qu'est-ce que je dis au monsieur ?
Non, je le regarde parce que regardant, j'essaie de me souvenir de comment ça se passe.
Ah, d'accord, pardon.
Mais non, on n'improvise pas. C'est-à-dire que... tout est très écrit, tout est très précis dans la tête de Bruno, avec une espèce de nonchalance qui est la sienne, dans un plaisir qui est particulier à Bruno. C'est-à-dire que c'est à la fois comme des vacances où on s'amuse tous comme des enfants dans une cour de récréation avec nos personnages. Et en même temps, la règle du jeu, elle est très, très écrite, elle est très carrée. Mais à l'intérieur de cette règle du jeu qui est si construite, on peut justement s'amuser, nous, à lui apporter ce qui nous amuse dans cette règle du jeu. Mais il n'y a pas de... C'est pas de l'improvisation. On est libre de proposer des choses dans ce cadre-là, quoi.
Et Bruno, dans votre envie de réaliser, de faire un film, c'est de porter un message, c'est de faire passer un bon moment. Quel est votre... Pour vous, le cinéma, c'est un cinéma utile, c'est un cinéma engagé, c'est un cinéma qui pose des questions ?
Oui, je crois beaucoup. On dit souvent un film, une œuvre d'art ne change rien politiquement, etc. Je n'en suis pas du tout convaincu, au contraire. J'entendais récemment Ken Loach là, parler de moi, Daniel Blake, en disant qu'avec son film, il avait réussi à ce qu'on change la musique d'attente et que ce ne soit plus du Vivaldi. Bon, c'est un peu dérisoire, mais c'est déjà un progrès. Parce que ça tape sur les nerfs de millions de gens. Et je trouve ça pas mal. Et les films de Ken Loach, moi, à chaque fois, me délivrent, moi, quand je vois ça. Sur grand écran, je dis « Ah, ça, c'est dit !» Et si j'entreprends un film, à chaque fois, je suis porté par la vie de quelques scènes, en fait. Pas forcément l'histoire, la grande trajectoire. C'est des quelques moments, je sens bien, quoi, et que j'ai envie de montrer, de faire vivre au spectateur cette expérience-là. Et sans lui, surtout veiller à lui dire, pas lui donner de message, de morale ou quoi que ce soit.
Bah, la politesse de la légèreté, là. Parce que vous n'êtes pas nombreux.
On est quand même dans les temps modernes, pardon, mais de la même manière que Chaplin dénonçait les chaînes de montage et à quel point le travail pouvait devenir oppressant. Ouais. C'est ce que vous faites aussi, une évolution vers la modernité, vers l'interactivité, le 2.0, la gentillesse de votre personnage ressort encore plus vous dépannez des cœurs, vous dépannez des manifestations, vous dépannez tout ce que vous pouvez dépanner, et elle devient encore plus remarquable dans la froideur de la technologie dans laquelle on est.
Ah oui, oui. Mais vous êtes très gentil de citer Chaplin.
Ça durera pas.
J'en profite un moment.
On fait la première demi-heure, on est très gentil.
Ça peut se gâter à tout moment, là.
On vous détend, puis après,
Après, il fait pas que dépanner, en fait, ce personnage.
Ah là, ça commence.
C'est quand même
un film néo-nazi.
Quand il accepte de manifester, c'est un emploi. C'est un emploi. Il porte les convictions de quelqu'un d'autre. Il a aucune illusion, finalement. Parce qu'il a bien conscience que les gens veulent pas être en première ligne. Il y a des petits messages qui passent parce que de toute façon, il risque de se prendre un coup de gaz lacrymogène ou.
Mais vous saviez que ça existe vraiment, ça?
Oui, des gens qui sont porteurs de messages. Ouais.
C'est-à-dire que tu peux pas manifester un jour et il y a un type qui vient manifester pour toi. Moi, je trouve ça démon.
Non, moi aussi, je savais pas que ça existait.
Qui vous représente. Ah bon, donc il fait pas que dépanner.
Des remplaçants de manif.
Mais je croyais l'avoir imaginé, puis j'ai entendu effectivement que ça existait.
Ah bah d'accord, donc voilà, c'est ça. Ah. Vous l'avez imaginé,
ouais,
à Bronze, ça existe.
Ouais, c'est pas comme les visioconférences à tout va, c'est arrivé plus vite que la musique.
Ou comme les gens qui font la queue pour vous, pour acheter une place, ça existe.
Ouais. C'est qu'en pensant imaginer des choses extrêmes et folles, en fait, ils touchaient juste, quoi, Bruno.
Mais c'était l'histoire.
Juste après, on avait vu des choses qui...
La réunion Zoom avec toutes ces images et le patron à l'étranger, en se demandant d'ailleurs s'il est vraiment à l'étranger ou si c'est pas un fake, il est juste chez lui en peignoir et fait semblant de travailler.
Il est vachement bien.
Renvoie, alors que vous ne connaissiez pas la situation pandémique qu'on allait vivre, la nouvelle vie Zoom que nous avons tous découvert, ça renvoie à ces images-là, c'est fou. Et on est encore moins surpris. Et c'est encore plus crédible, c'est ça qui est dingue.
On dit en visioconférence dans le film, les gens disent zoom maintenant, il y a le vocabulaire a évolué.
Ça va rentrer au dictionnaire, fait un zoom, ça rentre dans le langage quotidien.
Et la visioprésence qui devient une folie puisque ça va jusqu'à une fête, mais j'en dis pas trop parce que c'est quand même une surprise.
Et puis, la question du sommeil aussi.
Alors justement,
je
disais
que les gens.
Cette version de Ginger Ale, elle est formidable, cette reprise du grand sommeil de Dao. Non, mais je vous en prie, continuez sur le sommeil.
Les gens luttent contre le sommeil un peu dans le film. Les horaires de travail sont plus calés comme avant. Et là, le chauffeur de taxi s'effondre, tout le monde s'endort. Et ça m'émeut beaucoup, les gens qui travaillent trop, qui s'endorment.
Oui, c'est ça, c'est pas le problème du sommeil, c'est le problème du temps de travail.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'ils se retrouvent justement à être disponibles 24 heures sur 24, quel que soit leur job, à faire les 3-8 seuls, au volant d'une voiture.
Pour la galette des kings.
Voilà, c'est ça. Et puis ça s'appelle les deux Alfreds, et on va parler de l'importance aussi de ces Alfreds, qui sont pas que des doudous, mais qui sont aussi détonateurs et symboliques de beaucoup de choses, et notamment d'une sorte d'outing. Denis Podalydès, Bruno Podalydès, Sandrine Kiberlin, la politesse aurait voulu que je dise Sandrine Kiberlin, Denis et Bruno Podalydès. L'idée pour les deux Alfred, on va continuer à en parler jusqu'à midi et demi. Voici Fanny Ruet.
Oh, oui. Oh là là.
Mince.
Les amis, aujourd'hui, j'ai pas le temps de faire des blagues.
Ah mince.
Non, parce que demain, c'est le bac de philo.
Oh là.
C'est demain.
Et tu passes ? Non, mais je m'attendais à ce qu'on me contacte pour écrire des sujets. J'avais plein d'idées. Du coup, est-ce que la rémission d'une maladie est l'équivalent d'un faux départ en sport ? Dans la chanson Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux, quand Michel Berger dit. Et qui ont qui parle des cils.
Ah oui, c'est ça, tu as dans les yeux quelque chose qui fait mal. Oui.
Ah bah voilà, c'est encore mieux quand on la répète deux fois.
Ouais. Quand on la comprend surtout.
Ah oui.
Est-ce qu'un mec qui se branle trop, il éjacule du beurre?
Oh mon dieu.
Le jeu de la biscotte prendrait tout son sens. Est-ce trop tôt dans cette chronique pour faire une petite pub subtile pour dire que je viens d'annoncer la tournée française de mon spectacle?
Oui.
Oui, ok. L'expression « c'est du petit lait » est-elle inspirée de Nagui?
Non.
Non, d'accord.
Je viens de comprendre.
Donc j'avais plein de bonnes idées, vraiment j'avais plein de bonnes idées, mais personne n'a fait appel à moi, c'est pas grave, ok, à la place je vais aider les étudiants qui écoutent France Inter, big up à vous deux, pour se préparer à leur épreuve. Donc voici mes conseils pour le bac de philo. Premièrement, définissez chaque concept de votre sujet, citez des auteurs pour appuyer vos propos et gérez bien votre temps, sinon vous n'aurez pas le temps de terminer. Super. Après la théorie, la pratique. J'ai pris un sujet de 2016, pourquoi chercher à se connaître soi-même? Et bah parce que les autres sont nuls à chier, j'ai envie de dire. Mais vu qu'il faut développer, développons. Premièrement, on définit les concepts. Donc, qu'est-ce que le soi? Alors, le soi, c'est ce qu'il reste quand vous avez fini de faire semblant. Donc, vous pouvez l'opposer à la superficialité du moi social. Donc, c'est notre essence, ce qui reste de nous au fur et à mesure des changements, des évolutions. Donc là, on cale des références. La dictature du on de Heidegger ou la théorie du changement de Céline Dion, selon laquelle on ne change pas, on met juste un costume d'autre sur soi. Secondement, c'est quoi se connaître? Sur Internet, on apprend que se connaître soi-même, c'est entrer profondément en soi.
Titre.
Oh bah écoute, j'adore la philo, hein. Il n'y a pas que le secteur qui va être bouché. Donc selon les penseurs, pour atteindre son véritable moi, il faut se masturber. Et là les amis, on tient quelque chose. Ouais. Une teub, mieux un propos. Ce qui nous permet de répondre à la question principale. Pourquoi chercher à se connaître? Sauf que normalement c'est pile à ce moment-là qu'il faudra rendre votre copie. Si vous aviez appris justement à mieux vous connaître, vous auriez pu anticiper que votre gestion du temps, elle est merdique. Surtout que je vous avais dit au début de la chronique qu'il fallait faire attention, mais vous m'avez écouté. Oh que non, parce que ça rigole aux blagues de branlette. Mais quand je donne des vrais conseils, là, il n'y a plus personne. Donc voilà, ça vous apprendra à perdre votre temps à écouter des chroniques sur France Inter au lieu de réviser. Hein.
Merci.
Et pour cette tournée internationale, donc déjà tous les mardis et mercredis à Paris à la Nouvelle Scène, et puis ensuite en tournée début 2022, Lille, Toulouse, Tours, Caen, Rouen, La Rochelle, Nantes, tout ça, la France.
La France.
Je ne sais plus me réveiller, rien à faire. Sans moi, le monde peut bien tourner à l'envers.
Cette reprise très chaloupée du Grand Sommeil, c'est une commande? C'est-à-dire, vous avez demandé à ce que cette interprète fasse cette reprise ou la reprise existait?
Oui, elle existait. D'accord. Elle existait. Mais par contre, elle m'a bercé pendant l'écriture.
C'est la BO de l'écriture, en fait.
Oui, exactement.
Avant d'être la BO du film. Ouais. Dans le film, il y a également... Là, on est dans la start-up, quoi. C'est-à-dire, on est dans l'électro.
Ouais.
C'est-à-dire que même la musique est envahie par l'informatique.
Ouais. Ça, c'est Kalkbrenner. C'est mon fils Nino qui m'a conseillé ce musicien berlinois.
Qui en a fait plusieurs, dans le film.
Ouais.
Là, on est à Berlin.
Continuons de parler musique avec vos goûts musicaux. Sandrine Kiberlin, Bruno Podalydès, avant de recevoir tout à l'heure Anne-Sophie Moreau, qui s'occupe de philosophie justement, puisqu'elle travaille aux médias de Philosophie Magazine. Ça s'appelle Philonomiste, elle est rédactrice en chef. On va en parler dans quelques instants, et du monde du travail justement, de cette toile de fond dans le film Les Deux Alfred. La musique de Sandrine, celle qu'elle écoutait en tout cas en 93. Paroles de cette chanson qui vous touche, qui vous émeuve, vous l'avez choisie pourquoi cette chanson?
Vous me demandiez ça correspond à la période du premier rôle qu'on m'a donné dans le premier grand rôle qu'on m'a donné dans Les Patriotes d'Éric Rochant. Et je me souviens quand Éric, après des séances d'essai qui ont été infinies, il y a eu, je sais pas, 15 séances d'essai, quand il m'a dit que c'était moi, Ben, j'étais moi. J'étais comme sortie de la rue René Boulanger, là, et j'ai eu l'impression de peser.
Quand vous dites
150 kilos de moins.
C'est, il n'essayait pas Sandrine Kiberlin dans ce personnage, il essayait plusieurs actrices. Pour
il essayait
choisir,
plusieurs actrices, et moi j'ai fait une dizaine de séances d'essai pour essayer de convaincre le producteur qui ne voulait pas que ce soit moi. Alors qu'Eric.
C'est fou.
Il l'a envoyé d'ailleurs aux États-Unis, même chercher des actrices américaines et tout. Il a dit « Ok, j'y vais, mais moi, je veux Sandrine Kiberlin. Mmh. » J'étais pas connue, j'avais rien fait, je sortais du conservatoire. Et un jour, il m'a dit « Voilà, est-ce que tu veux bien, mais pour les essais, sans te garantir que tu auras le rôle, couper tes cheveux, l'éteindre, devenir cette Marie-Claude du film, sans savoir vraiment si j'allais avoir le rôle ?» Et j'ai dit « Oui ». On était vraiment liés tous les deux dans l'envie de faire ce film et puis ça a marché. Lié, le producteur ne
lié,
m'a pas...
Liés tous les deux contre le producteur.
Voilà, exactement. Et le producteur m'a pas reconnu aux essais. Il a dit, c'est qui cette fille? Et il a dit, ok, donc on la prend. Et il a
c'est
dit,
bon,
ouais.
C'est un bon producteur de film. C'est le mec qui...
Il a des
non, mais ce qui, est, ce qui est beau aujourd'hui, c'est que...
C'est que c'est
il
mon
en,
mari.
Il en rit lui-même. Voilà, il en rit lui-même. Et il aimerait qu'on retravaille avec Rochon un jour.
D'accord.
Et c'est un premier rôle difficile, vous le dites. C'était pas simple, tout d'un coup, d'incarner cette femme dans la séduction. Je crois qu'il y avait un peu de
c'est
de
une nudité. C'est une call girl, oui.
Donc, bah, j'avais les cheveux, j'étais plutôt une espèce de Charlotte Gainsbourg avec des baskets et des cheveux longs et je sortais du conservatoire, je débutais et il me confiait un rôle très très loin de moi. Donc c'était pas dur, c'était un cadeau pour une actrice, ouais, mais il fallait convaincre, voilà, et puis il fallait que moi je fasse le chemin jusqu'à cette call girl qui n'était pas non plus si évident pour moi comme ça a priori. Et ça a mis en lumière des choses de moi aussi. Ça, les personnages font toujours avancer, nous font découvrir
et accepter
aussi qui on est.
Accepter la nudité pour un premier film, c'est un obstacle.
Elle est call girl en même temps, elle n'est pas boulangère, donc c'est pas gratuit quoi, comme principe.
Une boulangère a le droit de se déshabiller.
Écoutez. Oui, bien sûr, mais là la call girl, c'était
j'ai une
plus...
super boulangerie, moi, je vous confie.
J'aurai la queue pour les croissants.
Non, quand c'est pas gratuit.
La queue pour les croissants, on en est où du jeu de mots, s'il vous plaît voilà. On a évité la belle miche, c'est l'essentiel. Donc, pardon, oui, donc
non,
ça faisait partie.
Non, on l'a pas évité.
Ça faisait partie. Non, je parlais dans la bouche de Bruno. Ça faisait. Enfin, titre aussi. Ouais. Bref,
Et si on passait à Bruno?
Ça faisait partie du personnage.
Ça faisait partie du personnage.
Enfin, ça faisait partie de la construction du personnage. Elle était.
Qu'est-ce que l'on ressent?
Bien dans son corps et elle en joue, effectivement, pour séduire les personnages masculins du film.
Et quand on se bat pour un rôle et qu'on l'obtient, il y a un moment, un instant T qui est marqué à vie dans sa tête, c'est-à-dire le coup de téléphone, le rendez-vous, la lettre, le texto, je sais pas.
C'est le coup de téléphone d'Eric.
Vous souvenez?
Il y a eu un premier coup de téléphone d'Yvan Attal, avec qui j'avais fait mes études de comédienne à l'époque, on était très jeunes. On s'était perdu de vue et il a appelé ma mère en disant « C'est bien parti Alice, c'est bien parti ». Et ma mère me disait rien. Et Eric un jour a appelé Rochon pour me dire « C'est bon ». Je venais en plus de finir le conservatoire, donc quand on termine les trois années de conservatoire, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé en sortant. Non, mais... Et là, c'est arrivé comme un... Comme
non, dit combien de temps ça va prendre.
Comme un début de tout, quoi. Je me suis dit, en plus, quelqu'un qui va me remarquer au début, j'avais peur qu'on pose jamais un regard sur moi. Mais je m'étais dit, si quelqu'un comprend, après, c'est mon affaire, ça va aller. Il fallait que quelqu'un comprenne.
Ouais. Est-ce que vous vous souvenez exactement de... la pièce dans laquelle vous étiez quand le coup de téléphone est arrivé, de votre tenue vestimentaire,
je me souviens,
du moment de la journée, matin, midi, soir.
Alors, je me souviens pas du moment où il m'a appelé, je me souviens d'avoir été... je me souviens d'avoir été dans les bureaux de la production rue René Boulanger. J'avais une petite robe à fleurs bleues et blancs, un peu trop courte, j'en mettais pas si souvent, mais parce que le personnage me le demandait, je m'habillais un peu comme elle, du coup. Ouais. J'avais un peu des talons et tout, et je suis sortie place de la République. Je me rappellerai toute ma vie, c'est sûr, je me rappellerai toute ma vie.
Et je suis moi, j'ai le ciel au bout des doigts.
J'étais comme ça.
Et là, on a l'image et la musique maintenant, on a le film. On a le film. Quant à vous, Bruno Podalydès, en 93-94, vous écoutiez Alain Souchon.
Tout s'use si l'on se sert.
La famille.
Ça vous va bien, Souchon aussi?
Ah bah on est dans la famille avec Sandrine, ouais.
On est en 94, Bruno, vous remportez le César du meilleur court-métrage pour Versailles, Rive Gauche. Un premier film que vous avez vraiment bricolé, tourné, je crois, dans votre appartement, en très peu de temps, avec
même pas la possibilité de faire des sorties de chant avec les comédiens, tellement bah, c'était plus dit, donc fallait ruser, fallait bricoler vraiment.
Oui, oui, ils pouvaient pas sortir, dans la cuisine, ils pouvaient pas sortir de l'image. Et du coup, on a monté la caméra sur des tubes et ils passent en dessous comme un sous-marin plongerait.
De la contrainte naît le génie.
Oh.
Mais si, Michel-Ange a
les
dit
idées,
ça.
En
de...
tout cas.
Non, mais c'est la phrase de Michel-Ange. De
il a dit ça, il était bourré. Hein.
De la contrainte naît le génie, c'est-à-dire que vous trouvez des idées pour résoudre des ennuis. Ouais, pas le choix.
Oui, exactement, mais ça m'a guidé sur tous mes films après. Tout ce qui m'arrivait avait du sens. Ouais. Alors, je l'interprétais comme quelque chose de positif.
Le danger, c'est quand un producteur emploie cette phrase en disant voilà, tu n'auras pas le budget, de la contrainte.
Tu sais quoi, tu vas être génial.
Et puis la problématique aussi, Bruno, c'est que d'un coup.
On te donne pas trop d'argent.
C'est ça.
C'est que la forme prend le pas aussi, d'une certaine façon, sur le fond, quand on a tant de contraintes techniques.
Oui. Oui, oui, je me souviens, la salle de bain était trop petite, donc je pouvais pas filmer Denis se brosser les dents, et je lui ai fait se brosser les dents dans le salon. Et il joue de sa brosse comme d'un archer. J'ai gardé le son seul de l'agitation de sa brosse à dents en son seul pour montrer l'agitation de son cerveau, alors qu'il préparait toutes les affaires. Et j'en ai fait une musique, mais ça venait que la salle de bain était trop petite.
Et,
et même l'histoire même du film, des toilettes à l'entrée de l'appartement, venait de mon propre. La topologie, les lieux font la mise en scène.
Ouais. C'est ça. 97-98, Sandrine Kiberlin, vous écoutiez.
S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer.
Vous étiez de bonne humeur ce jour-là ?
Non.
Rien qu'en aimant donner.
Et alors, que vous évoque Céline Dion ?
Cette chanson en particulier, c'est un peu un message personnel. Mmh. C'est un souvenir, je sais pas, j'ai voulu être très intime avec vous. Mmh. Très premier degré, c'est surtout. Gentil. Non, c'est un chagrin d'amour très marquant pour moi.
Vous voulez en parler, là ?
Voilà. J'aimerais en parler publiquement.
On est en 97, sans doute.
Non, mais c'est aussi l'année du Stade de France, du machin, tout ça.
Revenons à vous, Sandrine.
Non, c'est pas
la
ça.
La victoire des Français.
on dit que...
I will survive, j'aurais pu mettre ça.
C'était un rendez-vous au Stade de France et tu l'as jamais retrouvé, c'est ça ?
Si, c'était un rendez-vous au Stade de France, mais on n'était pas au même endroit.
On dit que les... On apprend de nos échecs, on apprend de nos expériences, et c'est comme ça que l'on grandit dans la vie, c'est pareil en amour ?
Oui, bien sûr. Enfin, on en chie aussi. Hein.
Oui.
Non, mais bien sûr, c'est sûr.
Est-ce qu'on apprend vraiment ?
On vous écoute.
Oui, parce que on s'en remet. C'est des choses qui restent pour toujours. Enfin, c'est des douleurs, qui restent pour toujours, mais qui font qu'après on apprécie peut-être plus l'histoire d'après ou qu'on. Mais bon, là, je dis des banalités, c'est effrayant.
Non,
mais
pas du tout.
Céline Dion, c'est aussi.
Vous dites des choses qui concernent beaucoup de personnes.
Oui.
Aussi.
Et puis Céline Dion, c'était aussi assez incroyable de la voir surgir au Stade de France. Depuis, elle arrivait comme ça au milieu du stade par le.
Détournez pas la conversation. Parlez-nous de vos histoires d'amour.
C'était un choc aussi sa voix qui arrivait et puis. Il y avait Jean-Jacques Goldman qui disait la phrase sans la chanter juste avant elle. Ça reste un moment.
Et peu de temps avant, vous recevez par la poste un texte signé David Deca. La pièce s'intitule Le roman de Lulu. C'est l'histoire d'un quinquagénaire qui est complètement fou d'une jeune fille de 25 ans et qui ne veut pas vieillir à ses yeux. Et vous lisez ce texte et vous êtes bouleversé. Et très rapidement, vous reconnaissez l'auteur.
Oui. C'était mon père qui avait écrit une pièce pour moi, en fait, qui me l'a envoyée sous le nom de David Deca. Et après, on s'est bagarré pour la monter. Et puis, c'est devenu une aventure super belle, parce qu'on l'a joué très longtemps, qu'il a eu des prix et que...
Vous aussi, le Molière de la Révélation théâtrale, pour
voilà,
cette pièce.
On s'est retrouvés au Molière. Enfin, c'était une aventure folle et qui reste très, très belle, très, très beau souvenir.
Et c'est quand même un geste fou d'un père à sa fille.
Oui, c'est un geste fou. C'est un geste fou et on a partagé cette histoire... Il était très heureux d'être auteur, en fait. Il me disait, tu te rends compte, je peux écrire partout, dans un café. Il était expert comptable avant, donc ça c'était son rêve. Et il a été au bout de son rêve, voilà.
Et il obtient la liberté, en fait, du lieu de travail et du cadre.
Il me disait, mais c'est fou, quand on
travail.
Écrit, on peut écrire dans la rue, j'ai des pensées qui me viennent et tout. Et c'était très bouleversant de jouer ces mots et de... et d'être après nommé au Molière pour le mettre à l'honneur comme ça. Et je me souviens, j'ai dit merci papa, c'est quand même rare.
C'est génial. Vous écoutiez les Nits, vous, mais j'adore tellement les Nits, Bruno.
Ah ouais.
Sister takes a bath. Génial.
To the oven and a little. Ça en voiture, c'est top. Hein.
Ça, c'est le côté réalisateur. C'est tout de suite, il a les images qui vont autour. Alors justement, qu'est-ce que vous avez comme image avec ce titre? Balade en voiture.
J'étais en train de le mimer, mais je suis à la radio, en voiture, tranquillement. Quoi. Il y a des musiques de voiture, ouais. On sait bien. Hein. Et celle-là, on fait partie. Quoi.
Et à cette époque, c'est Dieu seul me voit. Bruno, c'est l'histoire d'un homme qui est partagé entre plusieurs femmes, trois femmes, je crois. C'est votre frère Denis qui tient le premier rôle. Vous recevez le César de la meilleure première œuvre pour ce premier long métrage. Donc là, à chaque fois, ça vous cartonnez, quoi. Il y a une récompense directe à chaque fois.
Ouais, après terminé. Hein.
Un reproche, une plainte. Non,
un constat.
On avait dit jamais 203, mais
ça va venir.
Qu'est-ce qui va? On a parlé tout à l'heure des contraintes qui font que la forme devient essentielle dans les choix de réalisation. Là, pour Dieu seul me voit. Je suis toujours curieuse et étonnée de savoir comment une idée germe dans la tête d'un réalisateur et entre moments où elle germe et où on arrive à se convaincre que c'est sans doute une bonne idée,
ouais.
Et qu'ensuite on passe à l'action.
Mais c'est drôle parce que je disais que les endroits déterminaient la mise en scène et c'était aussi le cas pour ce film. J'ai regardé le plan de Versailles où il y a le château, la place d'armes et les trois avenues qui partent. Et c'était vraiment le type avec les trois routes possibles de sa vie qui hésitait au carrefour et que j'ai filmé tel quel d'ailleurs à la fin du film. Ça venait de là.
La topologie, hein, voilà, qui fait tout d'un coup une histoire. En fait.
Ouais.
Ça part du concret.
En fait, maintenant, on apprend que Bruno Podalides réalise ses films avec Google Maps. Il regarde comment, à partir d'une place,
tout passe.
Mais je me suis dit qu'un jour, si j'avais pas de budget, je ferais que Google Maps. On suivrait le petit point bleu et je le ferais parler. Ouais. Je ferais des dialogues, mais je dirais que le plan et le type. Non,
mais ça peut être une fille.
Ça peut être une fille, le point bleu. Ah, on a une candidate pour les essais. Mais blague à part, vous allez sur l'application pour vous balader comme ça, vue aérienne, sur des différents endroits.
Je l'ai fait au début parce que j'adore l'idée de voler. Je suis pas pilote et je voudrais pas piloter un avion, mais j'adore planer. Et au début, on pouvait lâcher, je sais pas si j'ai pas fait depuis longtemps, mais sur Google Maps ou Google Earth.
Ouais, c'est ça.
On lançait une espèce de travelling. Ouais. Comme ça, qui avançait tout seul et on passait.
C'est génial, hein.
C'est extraordinaire, fascinant. Ouais.
Totalement. On a Anne-Sophie Moreau qui est en ligne. Bonjour Anne-Sophie, vous êtes rédactrice en chef de Philonomiste, le média de philosophie magazine dédié donc au monde du travail, de l'entreprise, de l'économie. On parlait tout à l'heure des situations soit imaginées par le cinéma, soit réelles, en ne sachant pas d'ailleurs qui de l'œuf et de la poule dans ces histoires. Et dans les deux Alfred, il y a une société, une start-up qui interdit à ses employés d'avoir des enfants. Est-ce que ça existe dans le monde du travail, ça?
Alors, est-ce que ça existe officiellement? Peut-être. Officiellement, c'est évidemment absolument interdit. Hein. C'est, par exemple, lorsque vous passez un entretien de recrutement, ouais. L'employeur n'a pas le droit de vous demander si vous êtes enceinte, par exemple, ou si vous souhaitez avoir des enfants. Ça fait partie de ce qu'on appelle les questions illégales. Donc, évidemment, oui, c'est tout à fait interdit. Après, la question, c'est est-ce que, dans les faits, il y a des entreprises qui découragent leurs salariés d'avoir des enfants? Peut-être pas directement, mais en tout cas pernicieusement, oui, bien sûr.
Et c'est l'un des gros problèmes pour employer ou l'emploi des femmes en général, c'est-à-dire la crainte des patrons de se retrouver avec un congé maternité immédiatement après l'avoir employé.
Oui, évidemment, et on le sait, alors toutes les études le disent, hein, le principal obstacle à l'égalité homme-femme en matière de salaire, par exemple, et surtout, évidemment, d'évolution de carrière, c'est ce qu'on appelle le plafond de verre, c'est-à-dire le fait que le premier enfant et ensuite les suivants entraînent une chute de salaire et globalement un frein à la carrière dont on se remet très difficilement. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi que chez les hommes, c'est l'inverse, c'est-à-dire que paradoxalement, les hommes, eux, ont, en moyenne, hein, statistiquement, une augmentation de salaire quand ils ont des enfants, c'est presque un cliché, si vous voulez, le PDG, le dirigeant, ça fait bien d'avoir plusieurs enfants. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, dans nos clichés, et ce sont aussi les clichés que les femmes ont en tête, hein, l'homme doit être le principal pourvoyeur financier du foyer, et donc votre employeur, si vous êtes un homme et que vous avez un enfant, votre employeur va plutôt se dire, en réalité, il a besoin d'avoir un très gros salaire, parce que, il faut qu'il entretienne la famille.
Du coup, ça équilibre un peu, c'est pas mal.
Il y a une mesure qui serait pas mal, c'est de, que le congé parental soit le même pour le père ou la mère. Ouais. Ça rééquilibrerait beaucoup les choses.
On en parle.
Et puis alors, il y a une autre chose qui serait bien.
En fait, ce qui est la nouveauté dans le film, ce qui est intéressant justement dans votre comédie, c'est que la nouveauté, ce n'est pas qu'un homme et des enfants, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont des enfants. La nouveauté, c'est qu'ils s'en occupent. Et ça, c'est très inhabituel. Et c'est vrai même après la séparation. Hein, par exemple, il n'y a que 12% des enfants de parents séparés qui sont en résidence alternée, et encore moins qui sont seulement chez le père. Donc, en un sens, les employeurs, ils s'adaptent à la réalité. C'est-à-dire que dans les faits, oui, ce sont les femmes qui se coltinent encore ce qu'on appelle la charge parentale, et donc forcément les employeurs aussi anticipent un peu le fait que les femmes concrètement vont moins se consacrer à leur travail dans les faits. Et après la question c'est comment évidemment on agit sur les causes pour faire en sorte que ce ne soit plus le cas. Et là encore toutes les réflexions sur la question convergent. Oui, il faut un congé paternité digne de ce nom, et au-delà de ça un congé parental et des dispositions qui permettent, autorisent et encouragent les hommes à s'occuper de leurs enfants à hauteur égale des femmes.
Et quand on parle de retour à l'emploi, il y a aussi quand même les conditions de garde de l'enfant. Et je suis quand même très étonnée de voir, pour travailler dans deux grosses entreprises publiques, par exemple, que rien n'est mis en place pour aider les pères et les mères à faire garder leur enfant. Alors que ça me semble être aussi, finalement, dans le film de Bruno, les enfants ne sont pas les bienvenus, mais en fait, dans les autres...
Dans le privé, ça existe dans certaines boîtes.
Ouais, et dans la vie, souvent dans le public, en fait, on ne dit pas que les enfants ne sont pas le bienvenu, mais en tout cas, on ne fait rien pour permettre aux femmes de revenir à l'emploi. On le voit sur des petits salaires, par exemple, beaucoup de femmes préfèrent rester à la maison pour garder les enfants plutôt que de retourner au boulot, et donc en avancement de carrière et en inégalité salariale, ça se voit à un certain moment.
Mais alors, Anne-Sophie, est-ce que l'inverse peut aussi arriver, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir d'enfants et donc d'être célibataire, voire fêtard, voire volage ou dragueur, on peut inquiéter aussi des patrons pour employer quelqu'un en disant oh là là, lui ou elle vont être instables parce que justement ils sont célibataires.
Oui, il y a une question qui est intéressante. Il y a une situation qui est intéressante à regarder pour comprendre ça. C'est par exemple la situation des homosexuels qui sont souvent discriminés à l'emploi. On le dit souvent. En réalité, on se rend compte que, par exemple, lorsqu'un couple homo se met en foyer, en couple officiel, par exemple, se marie, ça a tendance à venir lisser les inégalités. Pourquoi ? Parce que dans le fond, effectivement, il y a toujours cette idée aussi chez les DRH qu'un célibataire pourrait être un peu volage. Alors, au sens où vous l'entendez peut-être le philosophe Søren Kierkegaard, qui dans son journal du séducteur parlait du célibataire comme étant coincé dans le stade esthétique, c'est-à-dire concrètement ça veut dire qu'il drague tout ce qu'il bouge,
c'est
ou
ça.
Pour le dire en termes plus philosophiques, il se grise de l'infini des possibles.
Ça c'est plus
clair.
Toi tu te grises de partout.
Il y a un personnage qui l'incarne parfaitement dans votre film aussi, qui est cette figure du slasher finalement. En réalité le slasher c'est ce personnage qui cumule les micro-tâches, voilà. Et en réalité, dans le monde du travail, et surtout les jeunes, ont fini par intégrer une flexibilité qui, au départ, a été imposée par les entreprises, bien sûr, mais qui, de plus en plus, est intériorisée. C'est-à-dire qu'en réalité, peut-être par peur de se faire larguer par l'entreprise, de se faire licencier, on a tendance, à anticiper et à ne pas s'engager en entreprise, à scroller les offres sur LinkedIn comme les dates sur Tinder, et à se demander en permanence si on ne devrait pas aller papillonner ailleurs. Donc, en réalité, les DRH, peut-être bien aussi de lire Kierkegaard et de faire en sorte que les employés aient envie de s'engager à long terme. Ce qui implique évidemment de leur donner des conditions de travail qui sont compatibles avec la vie d'adulte.
Je précise simplement que LinkedIn dont vous avez parlé est une espèce de réseau social du monde du travail où les CV, où on se poque entre CV, entre gens qui bossent pour avoir des connexions et un réseau dans le monde du boulot.
On dirait un extrait du film.
Voilà, oui, c'est ça, c'est pour ça que je voulais juste expliquer. Merci Anne-Sophie Moreau, bonne journée. Je rappelle, Philonomiste, le média de Philosophie Magazine. Bonne journée Anne-Sophie.
Merci, bonne journée.
Bienvenue Tanguy.
Ah, merci Nagui.
De quoi veux-tu parler aujourd'hui?
Eh bien écoutez, ce midi évidemment je veux parler de la France, cette nation conquérante, terre d'Honoré de Balzac et d'Ophélie Winter.
Oui.
Ce midi je le dis, vive la France.
Avec Leïla Kazan-Boudadi, Morgane Cadignan, Fanny Ruet, Monsieur Tanguy Passureau, Daniel Morin et nos invités Sandrine Kiberlin et Bruno Ponaludès. Avec ces deux Alfred.
Je ne peux plus me réveiller, rien à faire.
Un papa de deux enfants se retrouve à s'occuper seul de ses deux enfants, n'a pas de boulot, essaye de trouver du boulot. La société qui peut l'engager et qui va l'engager demande à ce qu'il n'ait pas d'enfants, donc il cache ses enfants. Il croise un dépanneur en tout genre, un slasher, comme a dit tout à l'heure Anne-Sophie. Il recharge les drones de livraison qui tombent dans la rue. Il remplace des manifestants.
Il promène des petits vieux.
Il devient nani. Nounou, pour aider le personnage de Denis Podalydès. Et au milieu de ça, une femme d'affaires, une businesswoman qui est exigeante, tendue, straight, tendue d'ailleurs à quatre épingles, hein, même physiquement, oui. Les fringues, les cheveux sont aident à ce que le personnage se tienne. Et puis tout, c'est de ça dont je voudrais parler maintenant, les doudous, c'est-à-dire ces deux Alfred, tout peut basculer avec ce symbole de l'enfance, et pas que symbole de l'enfance, symbole aussi de la responsabilité de la maman ou du papa pour les rassurer l'enfant.
Oui, oui. J'ai été saisi d'une interrogation cette semaine, c'est pourquoi doudou, d'où vient le mot doudou, ouais. Que veut dire doudou?
C'est doux.
Parce que c'est doué, je pense. Et que c'est la douceur.
Oui, ouais, peut-être, tout ouais. bêtement, mais ouais. doublé comme les deux Alfred, donc je dis tout ça est d'une cohérence.
Je suis génial.
Finalement, tout est cohérent.
Non mais c'est vrai, Sandrine, quand on parle de doudou, de maternité, de paternité, d'enfant, de transmission, vous avez eu un doudou quand vous étiez petite fille?
Oui. Oui, j'ai
que vous avez gardé longtemps?
Non, c'est ma mère qui l'a.
Ah oui, non, mais voilà, c'est ouais. ce qu'on racontait tout à l'heure.
C'était quoi comme Morgane. Doudou?
C'était comme une petite panthère blanche.
Ouais. D'accord. Toute molle. Et vous, Bruno, vous en aviez un?
Comment?
Vous aviez un... Je ne cherchais pas à gagner du temps.
Bien joué.
Moi, je me livre énormément aujourd'hui.
Bah, j'ai un gros Pinocchio énorme.
Mais ça ne va pas. Mais ça ne va pas.
Léa, il faut qu'elle parle aussi, Léa. Mais...
Non, c'est énorme. Un gros Pinocchio, c'est gros, pas
mais un gros Pinocchio.
Mais je comprends pas. Mais il était en bois?
Oh, pardon.
Non, il était toujours. Il était en plastique.
On peut pas.
Et il avait les quatre bras comme ça, et le nez s'allongeait pas. Mais...
Oh mince, c'est une arnaque. Une arnaque totale.
Les deux Alfred, on peut pas révéler d'ailleurs l'importance, entre guillemets, des doudous, parce que ça sera un geste presque politique.
Ah, à la fin, oui, ouais. oui. Mais c'est le centre du film quand même. C'est doudou,
c'est l'humain en fait.
L'intime.
Cœur de
tout. Oui, c'est le papa qui dépose les enfants à la crèche et qui oublie de donner les doudous et c'est comme un effet domino quoi. Tout s'enchaîne.
Puis le doudou, c'est le truc qui traîne par terre, qui se charge de toutes les odeurs. Enfin, quand enfant, c'est vraiment
surtout ne pas laver un doudou.
Ouais. Sacrilège, qu'on ne peut pas reproduire. D'ailleurs, c'est vraiment comme un être humain, quoi, unique.
Les deux Alfred, ce sera ce film, votre doudou du moment. Il sort aujourd'hui, ce film. Sandrine Kiberlin, Bruno Podalydès et Denis Podalydès, entre autres, sont à l'affiche du film. Voici Tanguy Pastureau.
Génial, vous avez vu ce qui s'est passé hier? Ah, je suis fier d'être français, quand même. Édouard Philippe, quoi. Décoré de la Légion d'honneur.
Ouais.
Ah bah ici, on est toujours en train de fourguer une récompense à quelqu'un. C'est le pays des cadeaux, notre pays. On le sait peu, mais l'homme le plus riche du monde, ce n'est pas Jeff Bezos, c'est Jean-Pierre Sanchez de Nevers, le PDG de Médaille Plus, numéro 1 de la médaille. Il en débite comme des boîtes de préservatifs à Cancun. Donc hier, Édouard Philippe, ce monsieur tout en hauteur, quand il part dans les Landes, les écureuils le prennent pour un pain, est venu à l'Élysée, cette grande cage à poules où tous les 5 ans, on envoie un type nul faire ce qu'il peut, c'est-à-dire rien. C'est une tradition. Tout Premier ministre qui passe 2 ans à Matignon est décoré. C'est une prime d'ancienneté, indirecte, puisque pour toucher le brosouf, il faut vendre la breloque sur le bon coin. Alors, tradition instituée en 2008 par Nicolas Sarkozy, qui d'ailleurs s'est éclaté, il a décoré, mais tout le monde. Vous passiez devant l'Élysée à vélo, je pense qu'il partait en footing derrière le biclou et vous accrochez une légion dans le dos. Sarkozy avait quand même décoré Robert Bourgi, le seul porteur de valise à pas bosser dans l'hôtellerie. C'est le gonce qui a refilé des costards à Fillon. Il a décoré Jacques Servier, inventeur du Mediator. En 2009, il lui a remis le cordon de Grand Croix. Alors, plus haute distinction derrière celle de Grand Maître qui revient au président. Nous, on voit un mec fragile qui se prend des chiffres, mais chez les élites, Macron, il s'agit d'un Grand Maître. C'est un système de caste, en fait, comme en Inde, mais avec des lustres. Alors, le Mediator, ça fait 2000 décès en France, mais bon, c'est accessoire. Sarkozy avait également décoré Ali Bongo, le dictateur gabonais, fils de qui lui a refilé le pouvoir. Ensuite, ce sera Noureddine, un fils d'Ali. En fait, il se transmet de la présidence comme la ch'touille chez les familles où il y a de l'inceste. Qui d'ailleurs n'est jamais puni, hein, parce qu'il y a toujours prescription. Voilà, petite parenthèse. Tout ça pour vous dire que dans les gens qui ont eu cette distinction, il y a tellement
amandes pourries, si on les met dans un bac en bois, ça fera du compost. Mais pas Édouard Philippe. Ah, Édouard, la puissance du port du Havre. Il fait rêver la France. Il est beau, il est grand, il pratique la boxe, il peut dérouiller Booba et Caris avec le petit doigt de la main gauche. Seule personnalité politique à avoir plus de 50% d'opinion favorable. Jean Castex est à moins 12. Et là, Macron qui est filou, hein, il est rusé comme un goupil. S'il vivait dans une fable de La Fontaine, il arnaquerait 1000 corbeaux. Avec Brigitte derrière qui lui dira non, bichon, tu vas pas manger tous ces fromages, j'étais Elgin alors. Hein. Qu'a fait Macron? Qu'a fait Macron? Et bien dans sa tête, il s'est dit Philippe, je vais le mettre hors d'état de nuire. Parce que s'il se présente, je suis cuit comme la crème catalane de la daronne à Manuel Valls. Donc il l'a décoré. Or, vous n'attaquez pas quelqu'un qui vous offre un cadeau. Ainsi, la famille de Xavier Dupont de Ligonnès, le soir où il a eu l'idée de les désinguer tous, lui avait offert une Wonderbox soin zen. Bah, il s'est peut-être dit, d'accord, j'ai des dettes, mais finalement, comme tous les gens de France Inter, c'est pas une raison pour devenir sociopathe. Hein, il a donc eu hier un petit discours. Alors Macron a vanté, je cite, la loyauté intangible de Philippe. Tu penses, hein, si le type se lance, dans un an, il passe au premier tour, bien sûr, il est loyal. Plus loyal, il y a juste Milou dans Les Aventures de Tintin. Et encore, il y a un album où Milou trouve un os de stégosaure dans un musée, il hésite à lâcher Tintin pour aller se baffrer. Mais ici, pas d'os de dinosaure, puisque Jean-Yves Le Drian est encore vivant. Donc le seul choix, c'était dire oui, grand maître, en faisant semblant de kiffer ce qu'a fait Édouard Philippe. En fait, c'est simple, la France. Un rival, on lui file une légion d'honneur, il se transforme en ami pour la vie. Un chanteur qui glapit trois mots orthographiés comme il faut, on lui file la médaille des arts et des lettres, il est content. Ensuite, il écrit des chansons qui ont pour titre « J'aime la France » ou « 5ème République Forever Mon Caniche », si c'est Julien Doré. Et ça va loin, leur truc. En 2020, Alessandra Sublet a été faite chevalier des arts et des lettres. Mais enfin, elle rit plus qu'elle ne prononce deux mots. Anne-Claire Coudray, la journaliste de TF1, pareil. Enfin, la moitié des journalistes, la moitié des reportages qu'elle lance, c'est sur les plages secrètes du golfe du Morbihan. Donc foutez-la à la tête de TV Brace. Elle bossera avec Colombo. Mais qu'on arrête de décorer n'importe qui, puisque ça n'a plus de valeur. Même Sophie Davant a été décorée. Bon, ok, c'est avec un abat-jour qu'elle est épuisée dans le stock de son émission d'antiquité. Mais en fait, ce principe de nomination, c'est un mec tout en haut de la pyramide qui remet des bons points à ceux dont il veut acheter la servilité. Il y a quand même Blanche Gardin qui leur a dit fuck, hein, ce qui en fait une grande dame. Parce que bon, que Sublet soit décorée, tant mieux pour elle, ça lui fait un truc à accrocher sur son t-shirt Mademoiselle en basket. Mais la Légion d'honneur, c'est atroce. Bachar al-Assad a eu la Légion d'honneur. Ben Ali, grand tortionnaire, le seul Tunisien qui, au Café des Délices, pouvait vous verser le thé à l'amande brûlant dans la gueule, a eu la Légion d'honneur. Pire, Mimi Mati, qui a fait tant de mal à la fiction française, l'a eu. Mais aussi, c'est véridique, le parrain des enfants de François Hollande et le coiffeur de Nicolas Sarkozy. Et pas l'inverse, parce que le coiffeur de Hollande, on était sur un emploi fictif. C'est-à-dire que, en gros, il suffit à la sortie du Paris-Nice, le train, là, d'avoir laissé Castex descendre en premier du wagon-lit, pour que celui-ci appelle Macron et dise « Tu connais Jean-Luc Martin ? C'est un mec en or. Hein, il dresse une médaille ?» Daniela Lombroso a eu la Légion d'honneur pour, je cite, saluer l'ensemble de sa carrière. Donc, ok, mais je la veux aussi, parce que moi non plus, les gens savent pas trop qui je suis. Donc, je la veux juste pour la refuser pour le fun, parce qu'on n'est pas des toutous. Donc, je le dis à Édouard Philippe, mon grand, jette ta médaille et présente-toi. Oublie Macron, les distinctions, la vie est courte. Allez, fonce, mon champion. Nous tous ici qui sommes de droite, t'attendons.
Merci, Tanguy Passion.
Vous l'avez retrouvé.
Une belle référence.
Il y a tout dans la playlist France Inter, c'est fou. C'est incroyable.
Tout.
C'était bien.
Vous avez été décoré ou pas? Dans votre
oui,
vie,
Bruno. J'écoutais, je me tassais dans mon fauteuil parce que j'ai hésité à accepter la Légion d'honneur.
Ah, vous. Et Sandrine, vous avez refusé la Légion d'honneur, vous, Sandrine?
Pas la Légion d'honneur, Ah, pardon. Non, j'ai refusé, comment ça s'appelle, l'Ordre
Chevalier
du Mérite, je sais pas quoi.
L'Ordre du Mérite. Chevalier des Arts et Lettres, peut-être.
Oui, mais voilà, c'est un point de vue personnel. D'accord. Ça me fait peur.
Comment ça?
Non, mais je veux dire, ça me ressemble pas.
Non, c'est-à-dire, vous, parce que vous pensez ne pas la mériter, parce que vous dites, c'est fait, comme l'a dit Tanguy Passureau, c'est fait pour des gens qui le méritent, entre guillemets,
oui,
vraiment.
Voilà, j'ai c'est pas ça l'impression de... Oui, je comprends pas assez ce que ça représente pour dire oui, en fait.
Et vous, Bruno, du coup, bon bah...
Ma chamérie, elle avait j'ai hésité, j'ai eu deux phrases qui m'ont aidé. Ma chamérie, elle avait dit, une Légion d'honneur, ça se demande pas, ça ne se réclame pas, ça ne se refuse pas, ça ne se porte pas.
C'est pas mal.
Je trouvais ça pas mal. Et une autre...
Mais je ne crois pas que Sandrine ait de vous ayez demandé à avoir l'Ordre du Mérite.
Ah non, ça, c'est vicieux, je veux l'avoir et je refuse.
Ah, mais c'est pas la Légion d'honneur, moi. Hein. La
c'est l'ordre du mérite.
Oui,
c'est
voilà.
Ça. Mais oui. Ça, je pense qu'on ne on le demande pas, on
non.
le reçoit.
Non, mais oui. Rien,
mais,
on demande
rien. Mais pardon, on n'a
si
pas.
Si les arts et lettres, on peut demander.
Alors, ouais. J'ai non. eu d'abord les arts et lettres, d'abord les arts et lettres, et après, c'était l'ordre du mérite.
C'est quelqu'un qui propose ton nom.
C'est quelqu'un qui propose à chaque fois.
D'accord.
J'ai proposé Daniel Morin, ça a été recalé 32 fois.
Tu peux te proposer. Tu peux te proposer.
C'est très évident. Mais je ne me vante pas de l'avoir refusé, c'est juste que. Voilà, faut faire ce qu'on sent, quoi.
Non, c'est-à-dire, vous dites avec beaucoup d'élégance, d'autres méritent vraiment d'être honorés, et je n'ai pas de mérite de faire ce que je fais. Par contre, arts et lettres, on est bien d'accord, là, vous la méritez, quand même, avec tout
oui,
ce que vous faites.
Oui, mais ça m'avait été proposé trop tôt. D'accord. Et j'avais le sentiment que je voyais pas
le fameux sentiment d'usurpatrice et d'usurpateur.
Non, j'ai jamais eu ce sentiment, bizarrement. Mais je n'avais pas, je me sentais pas de dire oui à cette remise de
cette médaille. Distinction. Très bien. Distinction. Les deux Alfred, c'est au cinéma et c'est aujourd'hui que le film est au cinéma. D'autres événements dans la culture, mais il a cadeau vous a dit.
On va parler de Brad Pitt. Brad Pitt, acteur.
Je vois pas
sûr,
pourquoi on parle de Brad Pitt.
Mais parce que ça fait plaisir. Il est aussi producteur. Justement, en tant que producteur, quel est le sujet de son prochain film? Est-ce que vous en avez entendu parler?
Les drones.
Non, c'est pas les drones, c'est pas les peluches.
C'est un film historique.
Ça va parler de son milieu.
Ah, bah,
la pègre.
La pègre, non, pas la pègre.
La drogue.
Hollywood, je sais pas.
Hollywood, ouais, mais en particulier.
Le bronzage.
Et en particulier.
Le sexe.
Ouais, MeToo, c'est pas loin donc.
Le sexe.
Le sexe dans le cinéma.
Weinstein.
Et donc, absolument. L'affaire voilà. Weinstein. Ça sera un long métrage qui est dans les cartons depuis quelques temps.
Long métrage, t'es sûr que le mot est.
Ouais, enfin, c'est ça. D'accord. Ça va s'appeler She Said. Et c'est en fait l'adaptation du best-seller du New York Times qui avait publié une enquête justement sur l'affaire Weinstein. Enquête publiée par deux reporters femmes. Qui retraçait en fait la manière dont elles avaient réussi à prouver les viols et les abus qui avaient été commis par ce producteur de cinéma américain. Et l'idée dans le film, c'est de montrer comment cette équipe de femmes journalistes est parvenue, malgré de nombreuses tentatives du producteur de poursuites, d'intimidation, de faire en sorte que justement le scandale n'éclate pas et que le monde entier ne soit pas au courant. Ça sera incarné par Zoé Kazan et Carey Mulligan deux journalistes du New York Times.
Pour Weinstein,
Carey Mulligan qui vient de jouer dans Promising Young Women, qui est sur ce type de sujet, qui est le meilleur film que j'ai vu sur les 5 dernières années.
Elle est exceptionnelle.
Elle est incroyable.
Donc super casting. Question pour vous, est-ce que il y a des films comme ça par leur sujet qui vous entraînent au cinéma, ou encore une fois c'est tout d'un coup l'univers d'un réalisateur qui va vous faire vous déplacer? Consternation.
Tout
alors
ça.
Bruno, on va laisser le temps à Sandrine de réfléchir. Bruno.
Non mais par exemple,
Grâce comme... à Dieu de Ozon ou des films comme ça qui.
Non oui, où je pensais à Michael Moore qui fait des films doc, on va dire engagés politiquement ou l'affaire c'est Erin Brockovich aussi qui était une histoire vraie. Et déjà à la base, est-ce qu'un film qui parle d'une histoire vraie vous touchera plus?
Au contraire, j'étais même souvent déçu enfant quand je voyais écrit inspiré d'une histoire vraie. Je disais, oh bon, bah zut, alors, si ça existe vraiment, c'est moins intéressant. Donc c'était au contraire.
Pourtant, de nombreux réalisateurs à ce micro nous disent que la réalité va encore plus loin des fois que la fiction.
Oui, c'est vrai. Mais j'aime bien qu'on prenne du recul et je suis souvent embêté par des films qui se font très vite suite à un sujet. Je pense qu'il faut au cinéma que ça
prenne du temps. Oui. Et vous, Sandrine?
Moi, c'est un mélange parce que je peux être attirée par un sujet, mais un sujet dans le regard de tel ou tel metteur en scène. Ouais. Enfin, je crois que c'est le metteur en scène qui me donne envie d'aller au cinéma, ou une actrice. Vous parliez de Julia Roberts. Ouais. Là, je peux aller voir
tout ce qu'elle fait.
Est-ce que Meryl Streep,
comment expliquez-vous que pour parler de l'affaire Weinstein, faut prononcer comme ça, elle est tant explosé aux États-Unis et si peu en France? Est-ce que la France n'est pas du tout concernée par ce genre de problème, ou trop peu pour qu'on en parle, ou alors on s'est énormément tué finalement?
Ça a beaucoup explosé, moi j'ai l'impression.
En France, il y a pas
on en a quand même énormément parlé. Non, après,
on a parlé.
Non mais je veux dire après,
il y a pas eu de révélation faite sur des comportements.
Quand même, moi j'ai le souvenir de certaines actrices qui s'en sont ouvertement plaintes. Enfin,
qui ont raconté.
Après, il y
a eu 4-5. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout le même phénomène qu'aux États-Unis.
Mais peut-être que ça n'a pas été aussi.
C'est ce que je pose.
Peut-être que ça n'a pas été aussi loin qu'aux États-Unis. Après, il y a eu des des situations similaires qui ont été dévoilées dans d'autres, avec d'autres, d'autres personnalités, et ça a pris le relais en France parce que c'était en France que ça se passait et que ça concernait plus de Français peut-être.
Ça vous a surprise ou alors vous avez totalement compris ce qui s'est passé en disant enfin ça sort, vous-même ayant que sais-je, subi des regards ou des allusions graveleuses dans votre métier, en faisant des castings, en démarrant sans être connu peut-être au début ?
Non, il se trouve que moi, ça m'a pas, ça ne m'est pas arrivé. Après, j'entends... En fait, ce que je trouve important, c'est de se souvenir des victimes dans ces cas-là. On en a tellement parlé à un moment qu'on ne se souvenait même pas de quoi on parlait. C'est le risque médiatique de ces propos, quoi. C'est-à-dire que ça prend tellement une proportion dingue qu'on oublie le principal, qui sont les victimes qui ont subi cette horreur. Et c'était important qu'elles en parlent. Mais après, ça prend parfois des proportions qui nous font oublier l'essentiel. Quoi.
Et lorsque Bruno Podalydès vous engage uniquement pour tourner une scène de baiser entre vous et lui, on met ça dans quelle catégorie ?
C'est de l'abus.
C'est de l'abus, on est d'accord. Ou le plaisir de jouer, en tout cas. Voici
Daniel... Non, j'étais très consentante.
Voici Daniel Morin.
Libéré, délivré, de qui puis-je bien parler ?
De la Reine des Neiges.
Presque, Jean Castex. Jean Castex n'est plus en isolement, cas contact. Non, il n'est plus, il va pouvoir reprendre ses fonctions. Mais la grande question est...
Lesquelles ?
A-t-on encore besoin de lui ? Bon, il y a quoi à faire ? L'épidémie, on en est où ? C'est bon, ça chute, on vaccine à tout va, l'immunité collective se rapproche. Super ! Et je peux faire quoi ? Rien, ça roule tout seul. Là, monsieur le Premier ministre, on n'a absolument pas besoin de vous, mais pas du tout. Ok, super, on attaque le gros dossier. Les élections régionales, on en est où ? Pour nous, c'est mort. On devrait avoir zéro région. Comment ça, zéro région ? Ça donne rien du Pont-Moretti dans le Nord ? Ah si, ça donne. Chaque fois qu'il va sur le terrain, on perd 5 points. Mais faut pas faire l'offensive ! Je suis là pour ça ! Allez, il nous reste combien de temps ? Le premier tour, c'est après-demain. Ah oui, c'est juste, c'est mort. Bon, ben, sinon, il y a quoi sur mon agenda de reprise ? Y a rien. Comment ça, y a rien ? Rien, rien du tout. Mais je fais quoi alors ? Partez en vacances. On est mi-juin. Je sais, mais il n'y a rien à faire, C'est pas la peine de rester. Et le président, il a peut-être besoin de moi. Non, je crois pas, non. Il a pas parlé de moi. Pour être honnête, je crois qu'il vous a oublié. Hier, il a passé la journée avec Édouard Philippe. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il foutait avec l'ancien Premier ministre ? Rien de méchant, il l'a décoré. Décoré, comment ça décoré ? Il lui a mis des bijoux ? Non, il lui a remis le titre de grand officier de la Légion d'honneur. Après, ils sont partis discuter. Putain, j'en étais sûr qu'il allait revenir celui-là. Il commence à me faire chier avec son look de beau gosse et sa barbe en hermine. On peut pas lutter contre lui, hein. Les Français l'adorent, il a une super cote de popularité. Bon, bah, je sais pas, je vais aller à Radio France. Aujourd'hui, il paraît qu'il y a un concert pour officialiser le nom de la maison de la radio et de la musique. Ça fait toujours bien quand il y a un représentant du gouvernement. Pas la peine. Il y a Roselyne qui nous représente. Mais merde, je peux y aller quand même, non ? Je serais son plus un, Bachelot. Non, elle a déjà un plus un. C'est qui ? Édouard Philippe. Oh. C'est dur de revenir quand on a été à l'isolement trop longtemps. Il y a toujours le risque de se faire prendre sa place, même par un prédécesseur. Heureusement, pour apaiser l'enfer de la vie professionnelle, il reste le foyer familial, source de bien-être quand on a le blues. Salut chérie, ça va ? Bof, ça va pas fort. Je me sens inutile. À Matignon, ils m'ont fait comprendre qu'il n'y a pas besoin de moi. Oh, mais arrête de dramatiser, ils sont occupés, c'est tout. Tu verras demain, t'auras plein de trucs à faire, c'est sûr. Ouais, t'as sûrement raison. Bon, on mange quoi ce soir ? Alors, je t'ai fait une assiette de jambon coquillette, t'auras plus qu'à la mettre au micro-ondes. Quoi ? On mange pas ensemble ? Non, ce soir, j'étais invité au resto. Par Édouard Philippe. Ah, bah, quand ça veut pas, mon Agui,
ça va pas.
Merci de l'avoir.
Les deux Alfred sortent au cinéma, un film réalisé par Bruno Podalydès où Sandrine Kiberlain joue, mais il y a un film réalisé par Sandrine Kiberlain qui devrait voir le jour à la rentrée, c'est ça ?
Fin d'année ? Plus tard, enfin en fin d'année ou début d'année prochaine, je dirais.
D'accord. Le titre est arrêté, vous êtes encore en train de réfléchir, vous êtes...
Non, tout est fini.
Je sais pas,
est sélectionné à la semaine de la critique.
Alors, est-ce que c'est le portrait d'une jeune fille qui va bien ou c'est une jeune fille qui va bien ?
Une jeune fille qui va bien.
D'accord. Parce qu'il y avait eu le portrait qui avait été évoqué dans son premier temps.
Tout premier scénario, enfin version, toute première version, mais c'est une jeune fille qui va bien.
Et à propos d'une jeune fille qui va bien, il y en a une qui va extrêmement bien, c'est Suzanne Lindon, votre fille, qui sort son premier film, 16 printemps.
Aujourd'hui.
C'est fou ça aussi.
C'est fou. Elle est super.
Tout à l'heure vous disiez, c'est magique de pouvoir dire merci papa. Mais qu'est-ce que vous avez envie de dire à ce micro en tant que maman ? Ça doit être aussi incroyable à vivre, de...
Oui, c'est une grande émotion, mais je veux pas parler à sa place, mais c'est une grande émotion, une grande fierté. Je suis maman, donc voir sa fille s'épanouir, c'est une fierté.
C'est ce que j'allais dire, c'est la plus belle chose que on parle beaucoup de paternité, d'enfance avec les deux Alfred, de doudou, mais finalement.
Elle rêvait de faire ça, elle l'a fait. Elle s'est donné les moyens, et c'est ça qui est merveilleux pour des parents, c'est de voir son enfant se donner les moyens de réaliser son rêve, quoi.
Réussir sa vie, c'est aussi réussir la vie de nos enfants, c'est ça, en fait.
Ah, c'est sûr, oui.
Les deux Alfred, cette poésie, cet humour, ce regard aussi grinçant sur notre société, sur son évolution, sur sa modernité, et finalement les véritables valeurs qui sont, et c'est pour ça que j'évoquais Chaplin ou Tati, ces valeurs qui sont les mêmes, et quels que soient les âges, les valeurs de l'humour, les valeurs aussi des rapports humains, tout ça est présent et concentré dans Bruno Podalydès, qui vient de signer un nouveau Podalydès.
Ouais, c'est ça, c'est une marque.
C'est une marque maintenant. On est ravis en tout cas que vous soyez venu le jour de la sortie de ce film qui a eu plusieurs sorties.
Quatre.
Ouais, c'est un truc de dingue, mais ça y est, maintenant c'est ça.
C'est lancé.
Ça, c'est fait. Des excuses à présenter, Daniel ?
Oui, désolé pour les fans d'Aglaé et Sidonie qui, ce matin, après avoir été plongés en plein souvenir joyeux et nostalgique, ont dû subir ça.
À tous les amis, nous, d'Aglaé et Sidonie. J'ai fait un duo avec son équivalent.
Ouais, ça pique un peu, pardon. Alors, désolé pour les fans de Taratata qui, ce matin,
proposition.
On subit en avant-première, ça.
À tous les amis.
La suite, c'est le 25 juin, c'est sur France 2. Désolé enfin pour les programmateurs de l'ensemble des antennes de Radio France qui, en ce jour de baptême de la Maison de la Radio et de la Musique, avec une multitude de concerts, Jean-Louis Aubert, Youssoupha, l'Orchestre National de France, à partir de 16h, 6h de live de qualité. Et nous, ce matin, on a eu droit à ça. Je me demande ce qui va nous chanter l'enfant des pyramides avec Riyad Satouf.
Je ne peux plus me réveiller, rien à faire.
Les deux Alfred, aujourd'hui cinéma avec cette bande originale. Merci Sandrine Kiberlin, merci Bruno Podalydès.
Merci à vous.
Et
merci beaucoup.
Bise à vos progénitures respectives et à vos familles respectives.
À nos doudous respectifs.
Et voilà, et j'en profite, et je suis sûr que Bruno verra d'un bon œil pour vous encourager aussi à aller voir 16 printemps qui sort aujourd'hui. De toute façon, c'est de la force du cinéma, c'est qu'on peut voir plusieurs films le même jour ou pendant toute une semaine sans pourtant que ça porte préjudice à la promotion de l'un ou de l'autre. Demain, Riyad Satouf sera notre invité. Voici les carnets de campagne de Philippe Bertrand.
À demain.